Acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pensez à covoiturer.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous me suivez toujours, Théophile?
Et comment?
Ça tombe bien! En ce moment, pendant l'alerte discount, l'assortiment de 12 mini viennoiseries est à 2,19€ la boîte!
Seulement 2,19€? Mais c'est le prix qui est mini!
Pour un plaisir maxi au goûter comme au petit déjeuner!
Allez, j'en prends deux!
Enfin 24!
Netto, on gagne tous à payer moins cher.
Barquette de 388 grammes, 4 mini croissants, 4 mini pains au chocolat et 4 mini pains au raisin, soit 5,64€ le kilo, transformé en France. Pour votre santé, bougez plus.
Merci d'écouter RMC, votre émission religieuse avec Matteo Ghisalberti. Il est minuit.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui vous attend chaque samedi soir sur RMC après l'After. Une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Ici, nous découvrions différemment la Bible, pas seulement à travers le grand livre que chacun de nous, naturellement, a à la maison, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Mais aussi à travers un site et un podcast qui s'appelle Biblus et qui a un site justement qui s'appelle biblus.fr et dont l'une des créatrice est Mathilde Ardant qui est ici avec moi ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Qu'est-ce que ce site, effectivement, pourquoi vous l'avez créé?
Alors, c'est une initiative qui maintenant va bientôt avoir un an, mais ça fait depuis septembre que là, moi, je suis à fond dessus. Donc, nous, on est une association qui s'appelle Prixme Bernardin qui est gérée par Léo. Et Léo m'a dit en septembre, écoute, c'est à toi de prendre le projet pour enfants qu'on avait en tête depuis quelques mois. Et donc, je suis partie sur ça en me disant, mais il faut pouvoir transmettre aux enfants un contenu théologique comme on fait sur Prixme, puisqu'on est du coup une newsletter de théologie vulgarisée. Et on s'est dit, mais pourquoi pas un podcast? Parce que c'est accessible, c'est sans écran, c'est facile, ça s'écoute partout. Et donc voilà, on est parti sur Biblus.
Et vous avez suivi le parcours de la Bible, donc en commençant par la Genèse, ou vous avez fait des détours?
On avait plusieurs questions. On s'est dit, quitte à prendre la Bible, oui, commençons là dans l'ordre chronologique et commençons par la Genèse, avec un peu ce challenge de prendre ces textes qui sont assez fondateurs dans notre civilisation, comme la création du monde, Caïn et Abel, des choses comme ça. Et on s'est dit, le défi, voilà, ça va être de commencer par là, quitte à après, pourquoi pas, faire des allers-retours avec le Nouveau Testament. Mais donc, on s'est dit, pour le début, pour le lancement, qui était le 3 avril dernier, on va proposer une saga sur la Genèse, parce qu'on considère que ce sont des textes que les enfants peuvent comprendre. Ça demande des petits ajustements, puisque ce sont aussi des textes difficiles qui
Oui, on est en train de parler de quelque chose qui a été écrit il y a quelques milliers d'années et qui a été écrit avec des allégories aussi, qui étaient propres du peuple hébreu de l'époque et de la culture de l'époque. Donc déjà pour les adultes, c'est un peu compliqué, j'imagine que pour les enfants.
Complètement. D'où l'idée de cette espèce de bus biblique, d'où le Biblus, qui est un bus qui se balade donc dans l'Ancien Testament et qui s'arrête à différents arrêts qui sont autant de chapitres de la Bible. Et de ce personnage qu'on a créé, qui s'appelle qui s'appelle Sophia, que j'ai la chance de pouvoir incarner du coup, et qui
est donc vous êtes Sophia en fait, vous êtes la voix de Sophia.
Je suis sa voix, oui.
Ah, ça c'est sûr.
Et celle qui écrit aussi les podcasts.
Donc, vous êtes un peu l'âme quand même de Sophia. Et pourquoi choisir un personnage qui est un peu une exploratrice?
Eh ben, fallait rendre l'objet ludique, quoi. Fallait trouver cette espèce de bascule qu'on voit beaucoup dans les dessins animés, de l'entrée dans l'imaginaire. Comment, en fait, on faisait entrer les enfants dans le texte biblique? Et on s'est dit, comme je suis une narratrice, ça sera un personnage féminin. Et rendons-la un peu sophistiquée, donnons-lui des airs d'Indiana Jones ou de Dora l'exploratrice. Et qu'elle puisse, comme ça, entrer avec les enfants et leur donner, en fait, un espèce de goût, un peu urgent de venez, faut qu'on découvre ce qu'il y a dans la Bible, c'est génial.
Oui, en fait, c'est une exploration. On va gratter, dans les pages de ce livre qui est effectivement plein d'histoires, d'histoires d'hommes et des femmes.
Et qui est même en écrivant les épisodes, je me rends compte, c'est très très narratif en fait. Parfois, j'ai même pas besoin de changer. Les versets bibliques sont des répliques, c'est très simple.
Et ça vous a permis d'ailleurs de redécouvrir quelque chose?
Ah, mais carrément. Carrément, des épisodes, par exemple Sarah et Abraham. Je ne savais pas que le personnage de Sarah riait et que Dieu, du coup, lui en revenait dessus. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que, du coup, ça me permet, moi, de découvrir.
Parce que cela, peut-être, est aussi quelque chose que vous avez fait pour les parents. Parce que finalement, on a tendance à penser, surtout ceux qui ne sont pas chrétiens, pensent que les chrétiens ont ce beau livre dans leur, dans leur table de chevet, sur leur table de chevet, ou en tout cas dans le salon. De temps en temps, ils enlèvent la poussière et stop. En réalité, c'est pas quelque chose qui est. Enfin, une fois on la lit, et c'est fini.
Oui, nous, ben ça c'était un peu le postulat de base, surtout sur Prix, où on s'est dit, en France, les gens n'ont pas un savoir théologique forcément immense. Et on s'est dit, pour les enfants, c'est un peu la même chose. Et on avait beaucoup de lecteurs et de parents qui nous disaient, et des grands-parents aussi, en fait, on n'a pas le temps d'apprendre aux enfants, on n'a pas les savoirs qu'il faut, et surtout, on n'a pas de support. Comment on peut rendre ça accessible avec les moyens d'aujourd'hui? D'où, Biblus, pour pouvoir relire la Bible avec les parents. Et pour les enfants.
Mais il faut avouer, confessons-le, que peut-être quelques parents et quelques grands-parents ont dit qu'ils nous fichent un peu la paix, donc aidez-nous faire découvrir la Bible.
J'avoue que pour les trajets de train ou de voiture ou les bains, ça va être très pratique normalement. C'est censé être pratique.
Mes enfants ne sont plus en bas âge, mais je peux garantir que si j'avais eu biblus.fr à l'époque, j'aurais été content.
Parfait. Okay. Et c'est dispo gratuitement aussi. Ça on avait
c'est
mis
ça
un
que
point
je
d'honneur.
Voulais aussi vous demander, parce que il faut quand même faire fonctionner la chose. Donc, bien sûr, les chrétiens demandent beaucoup de miracles, mais bon, des fois, il faut mettre un peu de beurre dans les épinards.
Oui, alors nous, il y avait plusieurs choses, mais déjà, on voulait quand même d'être d'utilité publique, donc il fallait que ça soit gratuitement accessible. Après, pour ce qui est de comment on vit, nous, on est une association Prisme Bernardin et on a la Fondation des Bernardins, parce qu'on travaille bien sûr avec le Collège des Bernardins, qui a un soutien immense, notamment pour le lancement de Biblus, ils ont été extraordinaires. Et aussi, toutes les autres sources de revenus, ce sont des dons. On va vraiment chercher, on demande sur Biblus, c'est encore tout petit, donc on n'a pas eu de retour direct, ça n'a que quelques jours. Mais grâce à Prixme, qui maintenant est là depuis 2016, on peut faire marcher tout ça.
Prixme qu'on a invité, qu'on a présenté bien aussi sûr. Dans notre émission, dans cette émission il y a quelques années. On salue notre...
Ami Thomas.
Ami Thomas, qui le gère.
Il le gère toujours.
Et auquel vous pouvez vous abonner sur
prixme.org.
Vous recevez une newsletter toutes les semaines avec des informations qui sont sur la Bible, blablabla. Vous découvrez un peu la Bible d'un autre point de vue, un peu comme vous faites justement pour Biblus. Et on revient justement au core business de cet épisode. Est-ce que vous pensez que cet intérêt pour la Bible et pour ses déclinaisons selon l'âge, selon aussi, je ne sais pas, le milieu culturel, les origines, est quelque chose qui nous dit un renouveau de l'intérêt vis-à-vis de la Bible. Je pense à d'autres podcasts et à d'autres offres médias qui concernent le christianisme.
Alors, il y en a d'autres, mais en fait, relativement peu. Nous, quand on a voulu créer Biblus, justement, on s'est quand même un peu rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Ça, vous avez complètement raison. On a vraiment détecté un vrai désir de transmettre ces textes qui font partie, encore une fois, je leur dis, mais du patrimoine commun de notre civilisation. Et en même temps, pas beaucoup d'initiatives. Il y a évidemment celle de Chérubin.
On salue aussi. On les a eues aussi.
et nous, d'ailleurs, on va travailler avec eux. Nos contenus seront disponibles aussi. Et le but est vraiment de se soutenir parce qu'ils ont eu la même impression que nous, quoi, qu'il y avait un vrai désir de redécouvrir ces textes qui sont quand même fondateurs aussi pour comprendre notre culture, l'histoire de l'art, les films, la musique. Et moi, l'idée, c'était de me dire, mais en fait, les enfants sont suffisamment intelligents pour directement être en contact de ces textes et plus tard pouvoir faire des liens. Voilà quoi.
Et c'est une façon aussi pour peut-être accompagner des personnes qu'à un moment décideront de franchir le pas, par exemple demander le baptême. L'année passée, il y avait eu un peu plus de 12 000 adultes et adolescents de mémoire qui ont été baptisés la nuit des Pâques, chez les catholiques seulement. Cette année, il y en a de mémoire encore 30% de plus. Donc, c'est quelque chose c'est un mouvement de fond très important.
Oui, je crois que vous avez raison. Et si Biblus, nous on n'est pas directement, on ne fait pas de l'évangélisation par Biblus, mais moi j'ai toujours à cœur qu'il y ait, on appelle ça une fine pointe spirituelle chez nous qui peut ouvrir chez l'auditeur ou le lecteur cette idée que Dieu peut lui parler à travers les textes, à travers l'art. Sur Biblus, à travers cette espèce d'histoire un peu ludique, l'enfant, je souhaite que oui, il y ait quelque chose chez lui, peut-être qui s'éveille de la beauté de la création, si je prends l'épisode 1 qui est sur la création du monde, comment Dieu crée la mer, les poissons, les oiseaux, et que, en tout cas, moi, j'ai créé le podcast pour qu'il se sente proche de ces beautés-là et qu'il puisse y être sensible, et pourquoi pas, plus tard... s'ouvrir à une foi potentielle, ça fait partie aussi.
Mais c'est facile de parler de quelque chose d'assez, comment dire, plein d'effets spéciaux comme la création du monde, où il faut manier un petit peu aussi l'argument, parce que...
C'est un challenge. Ouais. Après, pareil, je suis le texte biblique, et puis tout ce qui est effets spéciaux, ce qu'on appelle le sound design sur les podcasts, c'est un endroit de créativité que j'adore, parce que moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, et donc faire tout d'un coup vivre du vent, des arbres, des bruits. Je prends par exemple aussi la tour de Babel, mettre des bruits derrière de construction de travaux, du coup, ça devient un endroit de créativité assez génial.
Ok, il y a aussi un travail des bruitages important.
Énorme. Ça, c'est le gros du travail, oui.
Et d'ailleurs, je remercie toujours nos techniciens aujourd'hui, oui. Sylvain, parce qu'il nous permet de vivre, de faire passer à travers les ondes ou à travers les podcasts nos contenus. Et donc, merci beaucoup. On salue aussi ceux de Biblus.
Carrément, c'est moi qui fais ça.
Donc, vous êtes au four au moulin.
Ah, je suis multitâche, couteau suisse. Mais peut-être qu'un jour ça me sera déchargé, je ne sais pas, mais c'est quand même quelque chose de marrant à faire.
Et dites la vérité, est-ce que, vu que votre site et vos contenus s'adressent prioritairement à des enfants, est-ce que vous avez dans votre cœur ces paroles de Jésus qui disaient que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux? C'est l'évangile de Matthieu.
Sans doute que ça habite inconsciemment, mais oui, moi j'ai plutôt celle aussi où il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Je pense que, toutes ces paroles qu'il dit sur les sages, la sagesse des savants n'est pas la même que celle des enfants qui est plus proche de... C'est pas trop ça les mots, mais on s'est compris.
Ne vous inquiétez pas.
Mais oui, je crois vraiment, moi pour avoir été proche d'enfants dans des animations, de camps, de choses comme ça, j'ai toujours été frappée par l'espèce de, tout d'un coup, de justesse de leurs propos. Et puis après, hop, ils partent sur autre chose parce qu'ils ont vu une mouche. mais oui, ça doit bien sûr... oui, c'est pour ça que Biblus, je n'hésite pas sur Biblus à laisser des interrogations théologiques assez profondes et même parfois compliquées. Prenez le sacrifice d'Isaac et d'Abraham, c'est quand même un père...
Ça fait un peu peur aussi.
Ça fait complètement peur. C'est un fils qui va sur le bûcher et son père qui s'apprête à le tuer pour obéir à Dieu. Et en fait, non, faut le mettre. Moi, j'ai hésité à ne pas le produire en disant, non, mais c'est horrible. Enfin, les enfants ne peuvent pas. Et en fait, si... On l'a écrit, on l'a tourné et ça marche.
Et combien de temps prend la préparation de chaque épisode?
Je dirais que je dois avoir tout cumulé, ça doit être 3 jours de travail, un peu plus quand même, une bonne semaine avec l'écriture, la relecture, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec l'école biblique et archéologique de Jérusalem.
Oui, pour ne pas avoir des choses qui ne sont pas correctes.
Exactement, c'est le frère Olivier Cattel qui gère les relectures, et une fois que le travail du coup d'écriture et de relecture est validé, moi je passe au studio, et après j'ai tout la post-prod à faire, donc voilà.
Le montage,
exactement.
Justement les bruitages.
Les bruitages, les comédiens et comédiennes aussi, qui viennent poser leur voix. J'ai des amis qui viennent très gentiment m'aider à faire les personnages. Donc ils viennent.
Vous cherchez des voix d'ailleurs?
S'il y en a, oui, qui veulent.
Pas une autre promotion. Non, c'est pas bon. La Bible en français avec un accent italien, bon, c'est un peu difficile à assumer.
Donc voilà.
Si vous faites des épisodes en italien, pourquoi pas, mais voilà.
Ah, une idée.
parce que je réfléchissais au fait que vous êtes une association, donc peut-être donner un coup de main aussi en tant que voix, ça pouvait être intéressant.
Oui, et oui, carrément. Moi, j'ai donc des amis qui viennent, j'ai même mon petit frère qui vient faire leur voix, et nous, c'est peut-être qu'un jour, si Biblus devient immense...
Naturellement. Et il est bien parti pour l'être, parce que j'ai entendu dire que... qu'est-ce qu'il y a?
On a un bon début, oui.
Vous en dites quelque chose de plus?
Écoutez, on est 19e sur le... Non, 15e même, depuis aujourd'hui, 15e sur le top Spotify des classements... podcast,
donc chapeau.
C'est assez génial. On est premier sur les contenus pour enfants, sur Apple Podcast, en en une semaine, donc on est vraiment hyper contents.
Magnifique. Ouais. Donc il y a tout pour plaire.
Il y a tout pour plaire, il y a déjà plus de... On est prêt à des 11 000 écoutes, je crois, donc c'est le début, mais pour un début de quelques jours, c'est trop bien.
Bah c'est une très belle démarrage,
un lancement réussi.
Et est-ce qu'il y a des projets justement pour les prochains chapitres que vous allez mettre en scène, ou bien si vous avez aussi quelque chose pour un step successif?
Là, comme ça, je peux vous dire que tous les prochains épisodes, je les ai à peu près en tête pour l'année. Donc, on va continuer dans l'Ancien Testament. Après, bon, on a un peu des rêves chez Prix Bernardin, mais on imagine déjà, pourquoi pas, des objets dérivés, puisque on s'est beaucoup renseigné. C'est vrai que les enfants ont besoin d'être proches des choses qu'ils écoutent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'objets dérivés pour les dessins animés, les films, etc. Donc, est-ce qu'un jour, il faudra avoir un petit Biblus portatif ou...
Une petite Sophia,
des petits
avec
carnets.
Avec votre voix quand on appuie sur la main.
Voilà.
Préparez-vous.
Non, mais des carnets de vacances, pourquoi pas, pour suivre les...
Plus sage.
Ça sera plus simple. Mais voilà, mais on y pense. Mais on y pense, pourquoi
bien,
pas. Mais...
Toutes les bonnes volontés sont comment dire, prêtes. Et aussi, si vous avez des suggestions, on peut rentrer en contact avec vous, avec biblus.fr.
Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on sera dispo pour répondre.
Voilà, des idées, etc. Des voix et tout.
Carrément.
Bien, merci beaucoup Mathilde Ardan. Je rappelle que vous êtes l'un des... En fait, vous êtes un couteau suisse. Mais surtout, l'une des fondatrices de biblus.fr, qui est justement un site de racontes pour enfants basé sur la Bible, et qui a une version aussi podcast, et qui est le 15e en France sur Spotify aujourd'hui. Bravo, chapeau.
Merci.
Chers amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir aussi. Si vous voulez faire endormir plus rapidement vos enfants, par exemple, proposez leur d'écouter Biblus, comme ça ils seront plus calmes et vous pourrez un peu vous détendre aussi. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain et je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, à la prochaine.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr. RMC en direct, les podcasts RMC et votre musique avec RMC Gold
sont disponibles sur l'appli RMC, Radio Player, TuneIn et toutes vos plateformes de radio.
RMC,
partout,
tout le temps.
Sur RMC, la nuit,
RMC,
c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, Anaïs Matin.
L'invité du jour.
Notre invité ce matin, c'est Éléonore Carrois, députée Renaissance des Français de l'étranger, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères.
Pour revenir sur le conflit Israël-Iran et sur ce qui s'est passé au cours des dernières heures après les frappes israéliennes sur l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, Téhéran a donc répliqué hier soir et ce matin en envoyant des dizaines de missiles sur Israël. Bonjour Éléonore Carrois.
Bonjour.
Est-ce que cette escalade vous inquiète ?
Absolument. Et on a une accélération de l'histoire, une accélération du conflit, une régionalisation d'un conflit qui durait déjà depuis 2 ans. Et là, clairement, on est dans une situation extrêmement dangereuse et préoccupante.
Est-ce que, en tant que député des Français de l'étranger, qu'est-ce que vous avez mis en place pour protéger les ressortissants français qui se trouvent dans la région ?
Alors, il y a eu hier un conseil de sécurité par le président de la République pour à la fois assurer la sécurité des Français sur le territoire national, parce qu'il y a un risque d'attaque sur le territoire national avec le dispositif Sentinelle qui a été remis en place et vraiment des mesures fortes pour assurer notre sécurité en France. Sachez que le programme d'enrichissement nucléaire iranien fait qu'ils ont aujourd'hui des armes qui peuvent atteindre le territoire national. C'est très hypothétique, on n'est pas sous une menace aujourd'hui, mais en tout cas, il faut prendre très au sérieux le contexte géopolitique. Ensuite, pour les Français qui se trouvent dans la région...
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Exactement. Pour les Français qui se trouvent dans la région, il y a des consignes très claires. C'est-à-dire, déjà, prendre toutes les précautions d'usage du pays dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire, pour ceux qui sont en Israël, se mettre dans les abris lorsqu'ils entendent... Enfin, ils ont l'habitude, en réalité, les Français qui vivent en Israël. Pour les Français qui ne sont pas encore là, de ne pas faire de voyage sous aucun prétexte, de reporter tout déplacement dans la zone. Et puis, de toute façon, il y a qu'à avoir une carte du ciel. Hier, on voit voit qu'il n'y a pas d'avion qui traverse cette zone-là. On est véritablement...
Pas de ressortissants français parmi les victimes ?
À ce stade, non, pas à notre connaissance. J'étais hier avec le consul de France à Jérusalem qui a fait un travail incroyable dans le cadre du conflit à Gaza. Lui est en contact, évidemment, enfin, toute notre diplomatie est mobilisée sur le pont pour éviter justement des victimes françaises.
Et qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui devaient se rendre sur place ?
Qu'ils doivent absolument reporter leur voyage, qu'il ne faut absolument pas se rendre sur place. On voit qu'il y a une guerre qui a recommencé sur ce territoire. Et d'ailleurs, le président l'a rappelé hier, on avait deux otages français, alors dans un contexte tout à fait différent, mais qui sont toujours otages des autorités iraniennes.
En Iran.
Il faut absolument éviter tout déplacement.
Après les frappes israéliennes sur l'Iran la nuit dernière, est-ce que la réaction de la France est à la hauteur ? Emmanuel Macron a réaffirmé le droit d'Israël à se protéger. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran a la bombe atomique, a-t-il dit hier. Il affirme que si la France n'a pas participé à la conduite des frappes israéliennes, elle se tient toutefois prête à participer à la défense d'Israël si elle est en situation de le faire. Ça veut dire quoi exactement ?
Cette attaque d'Israël à l'Iran, elle se justifie, en tout cas elle nous a été justifiée comme étant une façon d'éviter une attaque iranienne, l'Iran ayant violé ses obligations internationales en matière d'enrichissement de l'uranium et donc s'apprête à avoir une bombe nucléaire. Donc ça c'est le narratif israélien. Le président de la République a dit, voilà, j'entends ce que l'on nous dit, j'entends ce qu'Israël est en train de faire, je n'ai évidemment pas participé à cette action et je ne compte pas y participer, mais il ne faut absolument pas que l'Iran obtienne
la
bombe
nucléaire. Mais est-ce que la menace iranienne et de la bombe atomique, c'est pas un prétexte pour Israël? C'est ce que disent certains spécialistes de la région. Ils affirment que Téhéran n'allait pas bombarder Israël alors que Tel Aviv a des capacités militaires supérieures.
Moi, j'entends cela aussi. Je vais vous dire, pour le coup, je ne suis pas une spécialiste de l'enrichissement nucléaire iranien et je ne suis pas sur place. Ce que je vois, c'est qu'il y a une escalade de part et d'autre. Il y a l'Iran qui viole ses obligations internationales parce que pour le coup, on a un cadre très précis et on a Israël qui bombarde de manière
unilatérale. Et certains vous diront qu'Israël a commencé la nuit dernière.
Et de fait, Israël a bombardé l'Iran. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une escalade qui est là, que ce qu'il faut faire, c'est réagir en conséquence. Ce qui est vraiment regrettable, c'est que la France avait entamé un processus vers la paix, un processus qui était en bonne voie avec l'Arabie Saoudite, avec une conférence qui était prévue à New York la semaine prochaine pour la reconnaissance de l'État de Palestine, en embarquant d'autres pays, parce qu'il ne s'agissait pas de faire une reconnaissance unilatérale ou une reconnaissance de papier, et que malheureusement, c'est impossible de tenir cette conférence en l'état, ne serait-ce que parce que les dirigeants palestiniens qui devaient s'y rendre aujourd'hui ne peuvent pas bouger de Palestine, de Gaza et de Cisjordanie. Donc il y a un véritable enjeu à ce qu'il y ait une désescalade et à ce que l'on puisse revenir à une situation, une solution politique. Qu'est-ce que la France essaye de faire dès le début ?
J'entends les appels au calme hein, depuis hier. Pourtant, on voit bien la réponse de l'Iran. La diplomatie, elle ne fonctionne pas.
Quand on est dans un contexte de guerre, c'est évident que la diplomatie, elle est en difficulté. Et là, on est dans une guerre.
Non, mais que ce qui se passe depuis la nuit dernière montre aussi que c'est l'échec de la diplomatie, non ?
Alors,
diplomatie américaine, et pas seulement.
Et alors, ce qu'on voit hier, c'est que ça s'embrase, mais en une seconde, et qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'un embrasement encore supérieur. En revanche, s'il n'y avait pas tous les efforts diplomatiques, si le président de la République n'était pas en contact avec ses homologues en Grande-Bretagne, au Canada, dans les autres pays européens, ce qui s'est passé hier, ce serait peut-être passé avant, et on aurait moins de chances d'avoir un horizon, un chemin. Donc moi, je pense que la diplomatie est absolument nécessaire en toutes circonstances. Il ne faut pas être naïf, là, on est vraiment dans une situation de guerre avec des bombardements. Vous avez vu les images, elles sont absolument terribles. Mais il faut à tout prix continuer cette ligne diplomatique. Et puis surtout, il faut donner une perspective, un horizon et marcher vers la reconnaissance de la Palestine et la reconnaissance d'Israël par les pays qui ne la reconnaissent pas. Parce que c'est la seule solution possible. C'est la solution à deux États.
Merci beaucoup, Éléonore Carroy, députée Renaissance des Français de l'étranger, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, d'avoir été ce matin sur RMC. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.
À vous. Merci.
RMC, 6h-9h.
Anaïs Matin. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, la une des grandes gueules du sport. Sur RMC, le foot ne s'arrête jamais.
On devrait la faire en anglais. Comme les Américains nous écoutent.
Dès samedi et pendant un mois, RMC est la seule radio officielle en France de la Coupe du Monde des clubs.
Donc le draw entre Marseille et Lille, vous avez compris. Monaco beats beats Rennes. Ouais. L'UBB win between 8 and 14 points. And the draw at halftime. Okay. Not at the end of the match.
Un podcast exclusif avec deux épisodes par jour jusqu'au début de la compétition.
743 virgule 21.
Une radio digitale RMC 100% Coupe du Monde des clubs avec tous les matchs en intégralité.
Va-t-il y en avoir 10 qui vont arriver à terminer avec cette Birds of Prey.
Une tournée de l'after aux USA.
It was incredible when I read that. I think like there is inside you resilience, you know. You don't understand what we resilience.
Ne ratez rien. RMC, le foot, c'est là que ça se passe.
Because it was like traumatisme.
Merci Denis pour tout ce que tu nous offres.
Ouais. Sur cette résilience, ça existe.
A resilience. Anglais, ok, résilience. Ça veut dire la même chose.
La résilience, oui.
Ok, parfait. Voilà en tout cas pour ce message venu des États-Unis avec l'anglais parfait de Denis. 32 clubs, 63 matchs, une compétition d'un mois que vous allez pouvoir suivre sur RMC avec la radio digitale intégralement consacrée à cette compétition. La nouvelle Coupe du Monde des clubs veut frapper fort avec une dotation record, 900 millions d'euros, la plus grosse dotation jamais attribuée à une compétition avec phase de poule plus match à élimination directe. La FIFA ménage les bourses des clubs, beaucoup moins les organismes des joueurs. Gianni Infantino pense déjà à la prochaine Coupe du Monde des clubs dans 4 ans, en 2029, avec pourquoi pas 48 équipes, si cette édition 2025 est une réussite. La musique qui fout les jetons est cette question. Est-ce la compétition de trop ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Oui.
Denis Charvet ?
Non.
Qu'en pense David Douillet ?
Maintenant c'est oui, voilà.
Ok, c'est oui. Après une nuit de réflexion, Sarah Pitkowski.
Oh que oui,
Denis Charvet est tout seul, mais je sais que ça ne te fait pas peur. Avant de débattre, on va retrouver en direct notre envoyé spécial aux États-Unis sur la côte ouest. C'est Valentin Jamin. Salut Valentin.
Hello everybody, bonjour à toutes et à tous.
C'est du Denis Charvet dans le texte. Merci Valentin, bravo. Alors tu es en direct, tu viens tout juste d'entrer dans ton samedi, on est bien d'accord. Il est quoi, il est minuit 15, c'est ça, minuit 18?
C'est ça, minuit 18.
Ok, alors vu d'Amérique, est-ce qu'il y a un engouement pour cette Coupe du Monde des clubs, Valentin?
Honnêtement, pas vraiment. Ici à Los Angeles par exemple, il n'y a pas de publicité, pas d'affiche pour parler du Mondial ou pour vanter la présence du PSG ou même de l'Atlético de Madrid. Certains locaux passent devant la boutique éphémère du PSG sur Melrose Avenue sans comprendre pourquoi. C'est le cas de Marc.
Je regarde de plus en plus le foot, les Coupes du Monde. Je crois qu'il y a des matchs ici, c'est ça ? Paris, je ne les connais pas bien, juste Messi. Mais ici, il y a tellement de sports, le baseball, le basket, le football américain. Et quand tu n'en as plus, tu as du tennis, du golf, le basket féminin. Et à la fin, tu as peut-être le soccer masculin.
Les billetteries ne font pas recette non plus. La FIFA a donné des places à des étudiants pour le match d'ouverture. Pour la rencontre de Paris, ce n'est pas encore rempli non plus, même si Los Angeles, pour le coup, reste aux États-Unis une ville où le soccer est un petit peu plus populaire qu'ailleurs. David, lui, par exemple, est surpris, mais il a déjà entendu parler du PSG.
Je ne savais pas qu'ils étaient là. Ils jouent quand ? Je connais quelques joueurs comme Vitinha. J'aime bien cette équipe. Elle voulait gagner la Ligue des Champions depuis longtemps.
Il y a le contexte aussi qui est politiquement très tendu dans le pays. Il y avait des émeutes en centre-ville à Los Angeles cette semaine. Il fait assez chaud également niveau température. Donc Philippe Fock, qui est lui journaliste américain, reconnaît que c'est tout simplement en fait pas une priorité actuellement.
Je ne suis pas sûr que les gens soient au courant. J'ai demandé à quelques amis, ils m'ont dit non. Je n'ai pas vu beaucoup de communication. Je ne sais pas si les gens savent où regarder ça. Personne ne sait qui sont River Plate ou les équipes saoudiennes. Ce sera intéressant de voir les premiers matchs si les gens se prennent au jeu. Il y aura sûrement plus de monde sur les derniers tours.
Il faut aussi quand même le dire, il y a quelques grappes de personnes qui attendent quand même les Parisiens par curiosité à leur hôtel ou à l'entraînement. Certains, comme Olivier Chattard, qui est un Français président du fan club du PSG ici, trouvent qu'il y a une petite dynamique positive autour du soccer qui est en train de naître.
Ça prend beaucoup plus de place avec le soccer féminin aussi, qui a quand même été important ici. Avec la MLS, l'arrivée de Messi, ça a aussi été important. Et le plus important, c'est la Coupe du Monde de football qu'il va y avoir en 2026, quoi. Après, pour cette Coupe du Monde-là, c'était un fait un petit peu, je pense, au dernier moment. Les gens, peut-être, ont moins le pouvoir d'achat de pouvoir dépenser parce que ça coûte quand même assez cher. Donc, je pense que c'est plus ça. Mais les gens sont curieux, ils veulent voir les équipes.
Pour résumer, donc, l'engouement est léger. On vérifiera ça demain en ce qui concerne le PSG à midi, heure locale.
Merci beaucoup, Valentin Jamin. Évidemment, on va suivre les grands débuts du Paris Saint-Germain face à l'Atlético de Madrid. C'est à 21h, heure française demain, à suivre en direct en intégralité sur RMC. On en reparle demain. Valentin, on te garde quelques minutes juste pour avoir les dernières informations côté parisien, parce qu'il y a eu des bobos. On voudrait savoir, évidemment, où en sont les Parisiens avant leur entrée dans cette compétition. Est-ce la compétition de trop? Oui ou non, le 32-16, le hashtag RMC Lab, l'application RMC Direct Studio. Oui, Christophe Cessier.
Alors je comprends évidemment, Denis, qu'en position de supporter du Paris Saint-Germain, tu sois impatient de voir le club qui a marché sur l'Europe, qui a régné sur l'Europe, maintenant dominer le monde entier, c'est ça. On se prend, on ne passe plus sous les portes, Monsieur Charvet.
Non,
donc maintenant, on a envie de voir le PSG marcher sur l'Amérique. Et c'est vrai que cette Ligue des Champions, remportée par le PSG, donne quand même un intérêt évident à cette compétition. S'il n'y avait pas eu le PSG, je peux te dire que là, ça aurait été quand même le calme plat.
Parles du point de vue des Français.
Oui, je parle du point de vue
l'intérêt mondial,
je vais y venir. C'est en 4 points, s'il te plaît. Donc j'en ai déjà pour une demi-heure, donc laissez-moi un exprimé, s'il vous plaît.
Attends, on va
j'ai du mal quand même à comprendre que toi, ancien champion, je m'adresse à toi parce que j'ai vu, on a un petit groupe entre nous où il me disait, il était avec son copain David qui depuis lui a réfléchi et a changé d'avis. J'ai du mal à comprendre que toi, ancien champion, qui en a bavé sur le terrain, qui condamne régulièrement les cadences infernales des rugbyman, eh bien, tu ne veux toujours leur faire jouer plus de matchs à ces footeux. Ils sont sur le pont depuis des siècles. Ils nous ont tout donné sur le terrain, ils nous ont régalé. Mais non, on a encore envie qu'ils fassent une compétition de plus et qu'ils arrivent au bout de la saison, qu'ils aient 15 jours pour se remettre, pour attaquer le championnat. Dans les années 1929, la crise économique, il y avait des marathons de danse qui étaient organisés. On filait des grosses primes aux couples qui tenaient le plus longtemps, tu vois. Et ils devaient tenir comme ça 48, 72 heures, 96 heures. Et ils se tenaient, et ils s'écroulaient. Ça s'appelait « on achète bien les chevaux ». Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'avec toi, c'est « on achète bien les footballeurs ». Voilà, Denis, ce que je dénonce à toi.
Bravo, Christophe Cessier, la réponse.
Quelle faiblesse. Je savais très bien qu'il irait sur ce terrain-là, sur le terrain du calendrier. Mais il faut prendre un peu plus de recul. C'est parce que moi, l'idée, elle est géniale, en fait. Avoir les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs clubs du monde s'affronter pour savoir quel est le meilleur joueur.
L'idée, elle est
extraordinaire. Après, qu'elle soit, elle vient de s'intercaler dans un calendrier démentiel, on est tous d'accord que les joueurs jouent trop, on est tous d'accord qu'il faut trouver des plages, mais ça, c'est un problème de calendrier. Après, l'idée.
Mais c'est un problème que tu aies vécu vite, j'ai l'impression, quand même.
Non, mais
c'est un mini problème, quoi.
Oui.
Le plus important, c'est que tu te régales.
Mais c'est tous les quatre ans.
Mais il faut
évoluer. Le problème, c'est que vous restez conservateur.
Ce que tu reproches à ton sport au rugby et pour lequel vous vous battez sur ces fameux calendriers, aujourd'hui, tu te dis que du côté en rugby, du foot, il va y avoir
un champion du monde des clubs en rugby. Je trouve que c'est une idée géniale.
Oui, mais ils vont alterner. Ils quand il y aura alterner, plus oui. de club, il n'y aura pas le champion.
Mais après, le problème du calendrier, c'est pas mon problème.
Le foot, c'est tu rajoutes des strates. Tant qu'il faut qu'ils continuent à se gaver sans mettre les poches, tout va bien.
Moi, je réponds à la question du jour. Est-ce la compétition de trop? Est-ce la compétition de trop? Non, parce que justement, ils font un début à tout, et je trouve que cette idée-là, il faut qu'elle d'abord, elle débute à un moment donné, et ça tombe évidemment dans un calendrier démentiel entre une Coupe du Monde qui va arriver l'année prochaine, avec une Champions League qui finit très tard. Mais ça, tu peux pas faire autrement que de le mettre au milieu d'un calendrier démentiel.
Ah bon.
Mais après, c'est au club de gérer la récupération des joueurs, la santé des joueurs.
Le calendrier, c'est pas ton problème. Là, en l'occurrence, c'est une guéguerre entre l'UEFA et la FIFA. C'est celui qui aura la plus grosse compétition. Mais quand tu dis les meilleurs clubs du monde, pourquoi le Barça joue pas?
Parce que le Barça,
Liverpool joue pas. Et pourquoi t'as des clubs, d'Arabie Saoudite, c'est pas les meilleurs clubs
Barça,
du monde?
Mais le Barça, il y a deux clubs par pays. C'est tout. C'est le règlement.
Mais me dis pas que c'est les meilleurs clubs du monde. Il y a une telle différence de niveau entre certains pays. Enfin, ça tient pas les meilleurs clubs du monde.
Précision de Valentin et après David Douillet.
En fait, pour résumer, la FIFA a décidé de prendre les résultats lors des championnats continentaux, donc par exemple la Champions League sur les 4 dernières années. Et en ce qui concerne le Barça, l'Atlético et le Real ont fait mieux, effectivement, c'est deux clubs maximum. Donc à chaque fois, on aura les meilleurs clubs des continents en fonction de leur performance ces dernières années dans les compétitions continentales. Voilà l'explication.
Donc c'est les meilleurs clubs.
Précision importante, il y a 12 clubs européens qui vont participer sur 32 qui participent à cette Coupe du Monde des clubs. David Douillet.
Moi, j'ai changé d'avis parce que j'étais parti dans la même direction de Denis. Je me disais que savoir quel est le meilleur club du monde, c'est important, etc., etc. Et en préparant ma contre-attaque que vous découvrirez tout à l'heure et qui j'espère fera beaucoup de voix, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça existe? Comment ça existe? Et en réalité, je découvre que c'est juste une histoire de fric et que à un moment donné le système quand tu pousses au paroxysme au maximum un système, ça craquelle de tous les côtés et ça risque d'exploser. Là je parle des conditions de compétition, du calendrier des athlètes. On a même vu à Liverpool en 2019 qui a été obligé de jouer deux matchs sur deux continents différents le même jour. Tu vois, enfin c'est un truc, ça devient complètement absurde. Puis après, il y a un truc qui m'a interloqué, c'est la prédominance des clubs européens. Aujourd'hui, cette Coupe du Monde, enfin ce championnat du monde des clubs, c'est pas encore mûr. Il y a trop d'inégalités entre les clubs européens et le reste du monde. Au niveau des budgets, j'ai fait quelques comparaisons. Ouais, mais tu sais très bien que dans le monde du foot, le budget est très lié. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais quand même, il y a quand même une vraie relation entre le budget d'un club et sa réussite, d'accord? Donc là, tu vois des inégalités colossales, abyssales. Donc tu te dis, bon, est-ce que ce championnat n'est pas trop... Enfin, il arrive trop tôt dans ce système. Il est trop déséquilibré.
Mais ça, tu peux pas en réfléchissant. Trop temps, c'est pas un argument valable, ça. Parce que tu peux pas avoir
tous
les clubs au monde qui ont le même budget. C'est d'ailleurs, tu le vois bien en Europe.
J'ai pas dit qu'ils avaient le même budget non plus. Mais l'écart, il est colossal.
Non, mais ça, en Ligue 1, l'écart, il est colossal et ça, on le sait. Et c'est vrai qu'il y a une dotation record pour pousser aussi les clubs à participer, surtout à mettre leur meilleure équipe pour essayer de gagner, parce qu'il y a au total 1 milliard de dollars de recettes, de dotations autour de cette Coupe du Monde des clubs. C'est absolument incroyable.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
Bonjour, c'est Anaïs Castagna.
RMC, Anaïs Matin.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour Anaïs Matin de 6h à 9h sur RMC. On va se réveiller ensemble dans la bonne humeur, c'est ma promesse, avec toute ma bande, toute la bande d'Anaïs Matin, Peggy Broche, Thibaut Jean-Grand, Rémi Jacob, les correspondants d'RMC en région et vous, évidemment, au 32-16. De l'info toutes les demi-heures et des invités qui font l'actualité. À tout à l'heure, dès 6h sur RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ?
sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, les grandes gueules du sport.
Restons un instant sur notre débat Coupe du Monde de Club. Est-ce la compétition de trop ? Oui ou non ? Les GG ne sont pas d'accord. Sarah, tu voulais prendre la parole. Pour toi, on le rappelle, c'est oui, c'est la compétition de trop. C'est même archi oui.
Oui, c'est archi oui. Alors, j'ai deux arguments. Un pour le côté monde du football. Déjà, cette Coupe du Monde, elle est en train de bouleverser beaucoup de choses, et notamment les fameuses périodes du mercato. Parce que si tu veux aller gagner cette Coupe du Monde avec les meilleurs joueurs, eh bien en fait, on vient d'ouvrir une période du mercato du 1er au 15 juin, et puis après, on va la refermer, et puis après, en fait, chaque championnat va les rouvrir. Enfin bon, ça déséquilibre en fait tout ce marché qui est déjà bien déséquilibré, on est bien d'accord. Et alors, au-delà de la surcharge de travail, les conditions. Mais alors, on s'inquiétait des conditions au Qatar. On s'inquiète des conditions dans lesquelles vont jouer les joueurs, là
À du midi côté demain pour les Parisiens.
Los Angeles, 40 à Londres.
38 degrés, ouais, c'est
non,
ça.
Non, mais 40 à Londres,
c'est le soir. Les Parisiens qui jouent.
Oui, heure française.
Heure française, mais à midi là-bas.
À midi, heure de là-bas.
Non, mais, non, mais
c'est ça qui nous intéresse.
Et en fait, tu vas avoir des écarts de température entre l'Est et l'Ouest. En fait, il n'y a aucune équité. En fait, c'est on vous met de l'argent, vous le répartissez, et en fait, l'enjeu, l'équité n'existe pas. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième, là, il est plutôt très franco-français, c'est de dire, est-ce qu'on peut passer un été sans football, juste pour laisser exister les autres sports, nos autres sports
là.
Non, mais et le tien en premier.
Mais
le tien en premier. On a un Tour de France, c'est la plus grande compétition de vélo au monde. Mais laissez-la exister, bon sang.
Mais ça va pas l'impacter, le Tour
quoi,
de France.
Ça va pas mais quoi, ça va pas l'impacter.
Mais pas du tout.
Mais bien sûr que ça. Mais bien sûr que oui, journaux.
Regarde, alors qu'on pourrait parler d'autres sports aujourd'hui, on fait la une, c'est-à-dire la une, c'est 45 minutes sur cette compétition.
Demain,
ce sera la même chose.
Mais
il y a le critérium du Dauphiné libéré qui est en train de se jouer.
Je suis pas d'accord avec vous. Alors, tu sais très bien qu'il va y avoir un moment.
Mais tu sais très bien que quand il y a du foot, le foot tue le reste.
Non, le tour,
c'est pas possible.
Mais il y a le tour. Il y a aussi l'été, c'est souvent des grands meetings d'athlétisme. On a les courses. Mais on a aussi nos euros de sport collectif en fait. Et ces sports-là, ils existent déjà difficilement tous les 4 ans avec les Jeux Olympiques. Et en fait, on remet une couche. Et on l'a bien entendu. On a entendu une personne que Valentin a interviewé. Il expliquait en fait l'intérêt des Américains pour les autres sports. Il me dit, quand il n'y a pas le foot, il y a le soccer, et puis après il va te dire qu'il y a le football américain.
Oui, mais il y a un vrai enjeu aux États-Unis parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive très vite dans...
Non mais on ne fait pas une Coupe du Monde des clubs pour le continent américain.
Mais le but de la FIFA, c'est de cannibaliser l'Amérique du Nord.
Mais non, c'est la visibilité de
cannibaliser l'Amérique du Nord. Là, il y a beaucoup d'argent, et essayer de prendre des parts au baseball, au football américain et au basket.
Ça ne marchera pas parce que c'est pas un sport universitaire masculin. Ça ne marchera pas. La culture
elle pénètre. Je suis pas d'accord avec toi, Sarah,
ça ne marchera pas.
Le football féminin aux États-Unis a pris une énorme dimension.
Féminin.
Oui, mais
féminin.
Tu ne peux pas dire que ça va pas
parce
marcher.
C'est un
sport de filles aux États-Unis.
C'est un sport de filles aux États-Unis.
Bon, d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. La preuve, tu regardes l'histoire du soccer aux États-Unis et l'évolution du soccer aux États-Unis. Elle est monstrueuse.
En tout cas, je remarque, c'est comme la Coupe du Monde au Qatar.
Derrière, ça s'est cassé complètement la gueule.
La vérité, c'est que les places, elles ne se vendent pas pour l'instant. Mais voilà, les places, elles ne se vendent pas.
Parce qu'elles sont très chères. Et aux États-Unis,
ils les vendent à 48 balles aujourd'hui.
Ils sont en train d'essayer de mettre des étudiants.
Mais il y aura du monde, tu verras à la fin.
Alors, j'ai regardé, c'est vrai que pour les plus grands clubs européens, parce que d'autres ne jouent pas autant, mais les Parisiens, quand ils vont en finale de la Ligue des Champions et qu'après, ils doivent se coltiner la Coupe du Monde
ils
des clubs, rendez-vous compte. En 2025, il y a la Coupe du Monde des clubs. Là, durant l'intersaison, normalement, ils sont en vacances, les joueurs. Ils sont en vacances au mois de juin et puis ils reprennent début juillet. En 2026, il y a donc la Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada. En 2027, hippie pourra, il n'y a rien. Voilà, il y a encore un créneau de libre, là, en 2027, il n'y aura rien.
Quoi, là ?
Ils vont nous trouver, je ne sais pas,
en 2028,
la Coupe de la Galaxie.
Il y aura l'Euro. En 2029, il y aura la Coupe du Monde des clubs. En 2030, il y aura la Coupe du Monde. En 2031, youpi, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien une fois tous les quatre.
Une année sur quatre, t'as un été tranquille.
Il y a Jérémy qui nous appelle au 32-16, il veut participer au débat. Bonjour Jérémy.
Bonjour à tous.
Quel est ton regard, alors, sur cette compétition ?
Alors, je suis un peu mitigé. Effectivement, si je pense aux caisses de mon club, je suis content. Par contre, si je pense au physique de mes joueurs, je peux avoir un peu peur. Si on prend l'exemple d'Hakimi, qui a commencé sa saison aux Jeux Olympiques de Paris et qui va la finir à la Coupe du Monde, donc il va faire quasiment un an non-stop, effectivement, ça peut m'inquiéter.
Ok, ça peut t'inquiéter. Est-ce que toi, tu privilégies cette Coupe du Monde des clubs ou le début de saison du Paris Saint-Germain l'année prochaine? Enfin, l'année prochaine, dans deux mois.
Tout dépend où est-ce qu'on va dans la compétition. Si je vois qu'on s'en sort bien et qu'on peut jouer les huitièmes, les quarts ou mieux, je changerai peut-être d'avis. Mais effectivement, je pense beaucoup plus à la saison qui arrive et à essayer de défendre notre titre en Ligue des Champions que cette Coupe du Monde des clubs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la première fois et on l'a pas encore joué, on sait pas ce que c'est. Mais je privilégie plus la saison qui arrive, sachant qu'on a déjà gagné la Ligue des Champions. Donc, on va dire la pression, elle est pas chez nous aujourd'hui.
Merci beaucoup Jérémy pour ton témoignage. Sachez qu'on parlait de la billetterie pour le premier match de Lionel Messi, Inter Miami à l'Ali. C'est le match d'ouverture, c'est cette nuit. Eh bien, il y a une grande braderie. Il y a des places à 3,50€ parce que les places ne se vendent pas pour aller voir Lionel Messi. Donc si
ça,
vous êtes dans le
réussite,
coin
ça.
Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Gianni Infantino l'a promis, le tous stade les... sera plein ce soir.
Ce qui est génial, c'est qu'il y a tous les anciens, il y a tous les retraités du football européen qui jouent dans les clubs américains ou dans les clubs.
Donc toi tu regardes
les clubs saoudiens. Je vais peut-être regarder PSG Atlético d'accord. pour voir un peu le truc, pour à quoi ça ressemble.
Est-ce que ça pourrait te plaire?
C'est ce que je te disais en préambule, c'est-à-dire que si le PSG avance dans la compétition, si le PSG affronte Messi, moi j'ai bien envie de
regarder.
J'ai bien envie de voir.
Ouais, c'est un match de gala, il est où l'intérêt sportif?
Alors comment je suis passionné, toi tu es un bobo, voilà, tu vas sauter sur l'occasion.
Mais non, mais je vais pas regarder beaucoup de matchs.
Oui, mais tu dis si le PSG joue contre Messi, je vais regarder.
Je vais peut-être en regarder un ou deux comme ça. C'est pas voilà.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
Bonjour, c'est Anaïs Castagna.
RMC, Anaïs Matin.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour Anaïs Matin de 6h à 9h sur RMC. On va se réveiller ensemble dans la bonne humeur, c'est ma promesse, avec toute ma bande, toute la bande d'Anaïs Matin, Peggy Broche, Thibaut Jean-Grand, Rémi Jacob, les correspondants d'RMC en région et vous, évidemment, au 32-16. De l'info toutes les demi-heures et des invités qui font l'actualité. A tout à l'heure, dès 6h sur RMC.
La semaine prochaine, cap sur le Salon du Bourget, le plus grand rendez-vous aéronautique et spatial au monde, avec RMC. 2300 exposants, 150 aéronefs, des shows aériens spectaculaires et des expériences immersives à partager en famille. Explorez l'espace, découvrez l'aviation de demain, plongez dans les métiers qui font décoller l'industrie et partagez la passion des femmes de l'aéro et du spatial. Journée grand public les 20, 21 et 22 juin. Infos et billetterie sur siae.fr. Le Salon du Bourget, la semaine prochaine, avec RMC.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, les grandes gueules du sport.
C'est un suspense insoutenable, digne des plus grands téléfilms de TFX. Qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France de foot après la Coupe du Monde 2026 ? Il y a quelques jours, Zinedine Zidane a confirmé son intérêt. « Je me sens légitime en équipe de France », dit-il, « où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte. » Cette semaine, dans les colonnes de West France, Philippe Diallo, le patron de la Fédé, s'est réjoui de l'intérêt de Zinedine Zidane. Sans blague, c'est la punchline DGG rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Je me réjouis donc qu'il soit intéressé pour rejoindre les Bleus. Après, comme je l'ai déjà dit, il y a une équipe en place autour de Didier Deschamps, dont on connaît tous la qualité et le palmarès. Et je veux le laisser travailler dans la sérénité, à la fois pour les qualifications et la Coupe du Monde 2026.
Merci Siri, pas très bien réveillé ce matin, mais ça ira mieux évidemment demain. Zidane en bleu, faut-il arrêter de tourner autour du pot? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Non.
Plutôt ouais, non, ok. Non. David Douillet?
Oui.
Sarah Pitkowski?
Bah, oui.
Oui, oui, oui. Ouais, Denis
bah,
Charvet?
Bah oui, oui.
Oui, oui, oui. Bah tiens, bon. Sarah, bah, pourquoi bah, oui
là, je suis seul face à vous.
Oui, face à nous, oui, oui.
Face à vous, car.
Mais non.
Là, on assiste à un petit jeu de politique, là, qui est fantastique. Alors déjà...
C'est déjà
bien. Quand moi j'ai vu la sortie de Zidane ouvertement en disant qu'il était intéressé par cette équipe de France, je me suis dit, ah enfin, parce qu'en fait c'était toujours d'autres personnes qui parlaient à sa place. Et après quand j'ai regardé où ça a été annoncé, En fait, c'est son équipementier. Enfin, en tout cas, il l'annonce dans le cadre d'une soirée de son équipementier. Alors après, je suis allée voir tout de suite, mais quand est-ce que finit la marque à virgule avec l'équipe de France? Je me suis dit, il y a peut-être un coup. En fait, pas du tout. Mais non, mais après, Philippe Diallo, enfin, je veux dire, encore heureux qu'ils nous disent que Zidane, c'est une bonne chose. Et puis après, on a la petite sortie de Noël Le Graët qui blanchit avec ses affaires, essaie de se redorer un peu l'image en disant, mais moi aussi, j'aurais nommé Zinedine Zidane. Mais pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on lui signe pas son contrat tout de suite, là, directement? Je ne comprends pas. Tout le monde est d'accord que ça soit en termes de notoriété, d'amour du public. Il n'y a personne qui envisage...
Mais non, mais il fait ça pour protéger Deschamps, c'est tout.
Mais on ne protège personne. On ne protège personne, Deschamps. Il a terminé, c'est bon. Ça fait des années qu'il est là.
Mais parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une résonance immédiate dans le fait qu'il annonce...
Mais c'est un secret.
Oui, mais si tu veux la résonance, ce serait énorme.
Mais si, au rugby, on annonce, on est capable d'annoncer un sélectionneur avant même que la saison soit terminée.
Mais au rugby, c'est différent.
Oui, c'est différent. Moi, je trouve qu'on devrait le faire une bonne fois pour toutes et on arrêterait toute forme de débat.
David Douillet. Voilà.
Moi, je trouve que c'est un manque de respect. L'attitude de Diallo, c'est vraiment une attitude de politicard où on ménage la chèvre et le chou, on ménage le flou artistique, etc. etc. On a deux immenses champions, un Deschamps qui est aux manettes et un Zidane qui veut aller aux manettes. Ouais. Et qui se respectent entre eux, tu vois. Et donc, de ménager cette espèce de brouillard malsain autour de cette affaire-là, vis-à-vis de Deschamps, il se dit waouh, attention, si je dérape ou s'il y a le moindre truc, etc., ça peut me tomber dessus. Et puis Zidane qui se dit on me dit pas clairement les choses, peut-être que on m'aime pas, peut-être que ça va pas, peut-être que ceci ou cela. Ces deux immenses champions, ils nous ont apporté la Coupe du Monde en 98. Ils méritent le respect. Le respect, c'est la chose suivante, c'est de dire clairement les choses. Deschamps, tu vas jusqu'en
2026. Mais il n'est pas
2026.
Obligé non plus, David. Moi,
je sais. Deschamps, tu vas jusqu'en 2026. Et ensuite, ce sera Zinedine Zidane. Point barre. Et puis, c'est terminé. Et chacun fait son bloc. Didier, il finit son affaire. Il gagne cette Coupe du Monde. Ce sera parfait. Et ensuite, on passe à une nouvelle ère. Et tout est sain. Et tout est propre. Et tout est clean. On respecte les gens. Il n'y a pas de respect.
Mais tu as raison. Je suis d'accord 100% avec toi. Après. C'est-à-dire qu'il est fait, il veut pas faire de mal à personne, il reste dans l'ombre, Diallo.
Mais quand t'es président d'une fédé, tu dois trancher.
Si Deschamps n'avait pas scellé son avenir.
Exactement.
La chose est différente.
Je finis juste qu'à partir du moment où Zidane fait le premier pas, évidemment qu'il doit la doubler. C'est-à-dire que Deschamps, Zidane, il dit, maintenant, il ouvre la porte. C'est la première fois qu'il en parle, je crois.
Par personne interposée.
Il avait un truc avec Adidas, avec son partenaire. Il a ouvert la porte, mais derrière, t'es obligé. C'est là où c'est incompréhensible. S'il avait rien dit, Zidane, tu peux pas tomber sur Diallo. Là, par contre, tu dis, c'est formidable. Zidane, on voit l'envie qu'il a, c'est formidable. Évidemment que ce sera lui. Mais c'est ridicule, quoi.
Christophe n'est pas du même avis.
Non, moi, je vous trouve drôlement impatient. Alors,
impatient.
Je m'adresse à toi,
non.
Tu sais.
J'ai
le droit de parler, il n'y a que vous qui parlez. C'est un débat contradictoire, les gars. Laissez les autres parler.
Les pilules.
On va faire un comptage de paroles sur toute l'émission.
Mais
c'est l'heure des pilules.
J'ai jamais le droit à la parole. On me donne la parole en dernier.
Le terme jamais est un petit peu exagéré.
Oh l'enfant. Réalisez-lui ses cachets, s'il vous plaît.
Je fais le calcul dès demain.
Ouais, les cachets, les cachets.
Demain, ce sera à 9h dans les grandes villes.
Je m'adresse à toi.
Vas-y.
Je te sais impatient depuis le temps que tu milites pour Zizou. Je comprends que tu arrives au bout du bout et que tu n'en puisses plus d'attendre que le nom soit officiellement annoncé. Rappelons quand même, messieurs, dames, que pour arriver à ce résultat, Jean-Christophe n'a pas hésité à faire tomber un président de la Fédération française qui avait eu l'outrecuidance de te répondre qu'il ne souhaitait pas répondre au coup de téléphone de Zidane. Et bien depuis, tu l'as fracassé, tu l'as fait dégager. Donc je sais que tu es prêt à tout pour que Zidane y arrive. Moi je comprends la position du président Diallo. Elle est respectueuse de son institution, respectueuse du travail accompli par Deschamps et respectueuse des contrats. Qui vous dit que le contrat n'a pas été signé? Est-ce que vous êtes dans les arcanes du pouvoir? Est-ce que vous savez ce que sont en train de faire les avocats?
Non, parce que souvent, si ça avait été le cas, tu penses bien qu'aujourd'hui, il y aurait eu des fuites.
Je crois que ça commence pas déjà à négocier.
négocier et à travailler les contrats. Moi, je suis persuadé que oui.
Que ça
le problème,
les contrats,
c'est que tant que c'est pas signé, il ne peut pas le dire. Est-ce que tu aimerais, toi, JC, que l'on annonce ton départ pour TF1, que je sais qu'il est imminent, alors que rien n'a encore été signé? Franchement, si je fais courir le bruit, Jean-Christophe Drouet part à TF1,
t'es pas obligé de dire,
ça va faire plaisir.
Tu peux pas, t'es pas obligé de dire il va venir à 100%. Tu peux dire évidemment que c'est le meilleur candidat.
Mais c'est ce que
tu
vous peux... êtes, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Mais non, mais c'est la communication qui est pas bonne. Je suis désolé.
Gardez votre calme, messieurs dames. Tout arrive à point. Qui sait attendre? On a un sélectionneur qui est en place jusqu'à la Coupe du Monde.
Mais c'est du blabla pour rien. On est bien d'accord.
Dans la coulisse, je vous dis que les choses sont en train de se passer. Tout le monde le sait. Zizou va lui succéder. Alors patientez, patientez. Je sais que ça t'empêche de dormir la nuit. Je sais. C'est bien de patienter. L'annonce officielle n'en sera que plus belle. Je t'imagine sauter de joie dans ton petit pyjama le matin comme ça, quand la fumée blanche jaillira de la cheminée du boulevard du Grenelle et que l'on nous annoncera Abemus Zizou. Voilà. Eh ben on l'aura. Mais vous l'aurez, mais Zizou.
Je suis tombé sur une phrase et tu en as parlé cette semaine qui m'a fait beaucoup de mal. Je dois le dire parce que c'est vrai que dans Bartoli Time, à cette question, sur Noël Le Graët, Le Graët, est-ce que Zidane au Brésil, ça lui ferait quelque chose? Il nous avait répondu, Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer, je vois pas pourquoi je le prendrais au téléphone. Et là, cette semaine, il a dit, il s'est expliqué, il est revenu sur cette interview, et ça m'a fait beaucoup de mal, il y a mon cœur qui saigne, parce qu'il a dit, j'en avais marre qu'on me demande pourquoi je l'avais fait signer 4 ans, il parle de Didier Deschamps, donc j'ai envoyé balader, je ne sais plus qui.
Ouais, il a pas eu ton nom.
Alors, et donc le journaliste de l'équipe, qui n'a pas vérifié, qui n'a pas fait son boulot, a dit Marion Bartoli, alors qu'il te répondait à toi.
Alors,
Marion,
cher Noël, vous venez quand vous voulez dans cette émission, je vous reposerai la question sur Zinedine Zidane et sachez que je m'appelle Jean-Christophe Drouet. Voilà, et je vous embrasse.
Voilà. Qui part sur TF1.
Non mais juste pour répondre à Christophe, 2 secondes.
Vas-y, rapidement.
Ton raisonnement, il est bon si c'était pas Zizou. La vérité.
Ah oui, je sais.
Mais c'est Zizou. Exactement. Mais non, mais je suis désolé.
Et c'est là où
je rejoins David. C'est-à-dire, tu as une forme de respect à avoir par rapport à une icône du football français.
Une icône, parce que lui, il y a
Zizou et les autres. Je suis désolé.
D'entraînement. C'est une icône qui a mis quand même sa carrière d'entraîneur en stand-by depuis 2021.
Pour André,
pour les Bleus. Et donc il n'a pris aucun autre engagement depuis 2021 pour même entraîner, que ça soit un club, une autre sélection, en se disant je veux être libre au moment où on viendra me chercher. Donc je pense que là on va arrêter cette attente interminable.
Ils vont évidemment aller le chercher et je n'en doute pas une seule seconde.
Mais même pas aller le chercher, ils vont se retrouver, c'est tout simple.
Déjà signé à mon avis.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport sur RMC tous les dimanches de 13h à 15h, c'est Stephen Brunch.
Il est 13h04, vous êtes bien sur RMC, c'est votre émission du dimanche, Stephen Brunch, 13h à 15h.
Invité, news, débat sans filtre, la libre antenne sport du dimanche midi avec Stephen Brun et vous au 32-16.
Ils ont réussi même à te donner une émission, donc attendons, c'est que tu le mérites. Quand on va à Moscato, tu me diras, tout était possible. Hein, donc,
RMC, Stephen Brunch, le dimanche, 13h-15h.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC. Les GG contre-attaque.
4 propositions ont été faites ce matin dans les grandes gueules du sport. 4 propositions de débat. Vous avez pu voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Voici les résultats. La fertilité protégée avec la WTA et cette
2%.
Annonce cette semaine. 14%. Malheureusement, c'est un débat très intelligent de fond et c'est un très bon débat. Mais il est quatrième. Il arrive quatrième. Malheureusement, ma chère Sarah, c'est pas payé. 16% seulement pour Longoria. Payé, ouais. Doit-il encore s'occuper du mercato, lui, le président de l'OM? 16% pour toi, Denis, t'es troisième.
Tant mieux.
28% pour David Douillet. C'est la première fois de sa carrière qu'il termine deuxième sur les calendriers surchargés. 28%, mon David. À plat de couture, c'est une victoire. 42% pour Poggi. A tué le tour, a tué mon suspense.
C'est le fameux journaliste qui parle jamais assez dans les grandes gueules, c'est ça qui est
écrit. Oui,
tu vas en parler encore. Christophe Cissieux.
J'ai de combattre pour reparler.
Christophe, moi, je remets en question le système. Je vous rappelle que X est la propriété d'Elon Musk. Et je pense qu'il y a une filiation entre M. Cessieux et M. Musk, parce que c'est pas possible.
Pourtant, à chaque fois, il gagne. Plus à Donald Trump que moi, quand même.
Oui, non, certainement pas. Non, 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 vraiment pas du tout.
David,
en tout cas, tu caches bien ton jeu. David, tu connais Musk, c'est sûr. C'est magouillé. Je veux un huissier de justice sur cette
affaire. Très bien, ce sera prévu pour cet été. Ne t'inquiète pas, on va se charger de tout, mon cher David. On a 7 minutes sur ce débat, les amis. Très intéressant, avec la performance incroyable de Poggi hier.
Christophe. Ouais, c'est fou comme en quelques minutes, les espoirs de toute une année peuvent fondre plus vite qu'un glacier soumis à la canicule. Hier, jusqu'à 16h30, j'étais guiré. Je me faisais une joie d'assister à la première bagarre en montagne de l'année entre les trois fantastiques. Vingegaard, retrouvé et ambitieux, et Evenepoel, en jaune et euphorique, et Pogacar, le petit Poggi, mis à mal mercredi dans le contre-la-montre, et dont certains annonçaient déjà, non pas le déclin, mais un coup de moins bien. Et puis est arrivée la fameuse côte de Domancy, qui surplombe Sallanches en Haute-Savoie, là où en 1980, Bernard Hinault avait écrit l'une des plus belles pages de sa carrière et du cyclisme français en allant décrocher un titre de champion du monde. Elle n'est pas commode, cette côte, hein, pas du tout. Plus de 12% de déclivité par endroit, un vrai chantier, et je m'attendais à assister dans Domancy à une bagarre de tous les instants. J'imaginais, dans mes rêves les plus fous, une première attaque de Vingegaard, le contre de Poggi, vite repris par le Danois. J'espérais même que notre champion olympique belge, une fois les deux Lascar épuisés, parvienne à rentrer et conserver son maillot jaune. Oui, mais ça, c'est de la fiction. C'est de la fiction parce que dans la réalité, celle de Pogacar, les choses ne se passent jamais comme ça. Et c'est pas la faute de ne pas l'avoir vécu, cette histoire, depuis si longtemps, depuis qu'il est devenu le nouveau cannibale. Dans la réalité de Poggi, ses équipiers commencent à rouler à bloc, asphyxient la concurrence avant que le petit gars au maillot arc-en-ciel assis sur sa selle et sans se retourner ne serait-ce qu'une seconde décide d'envoyer les boîtes, d'appuyer sur les pédales et de dégoûter tous ses rivaux. Le scénario est immuable et au bout de la côte, celui qui n'était que 7e hier matin au classement général à 38 secondes d'Evenepoel se retrouve un maillot jaune sur les épaules avec plus de 40 secondes d'avance sur son premier rival Jonas Vingegaard. Fallait pas l'énerver Poggi, fallait pas lui dire qu'il avait été décevant dans le contre la montre. Non, ça faut pas lui dire, sinon il se fâche tout rouge et tue le game en quelques minutes à peine. Alors si ce n'était que le Dauphiné, passe encore, ce n'est qu'une course en préparation, mais le problème c'est que j'ai bien peur que ce scénario ne se reproduise très régulièrement dès le 5 juillet au départ du Tour de France. Voilà comment, en l'espace de 12 km, Pogacar, ce coureur fantastique que j'adore voir courir, a quand même réussi à plomber mon beau mois de juillet. Pourra-t-on encore prétendre après ce numéro qu'il y aura du suspense au départ du Tour? J'en suis pas convaincu, à moins que le Danois, malin comme il est, n'ait choisi de cacher son jeu, histoire de renforcer la confiance du lièvre Pogacar, pendant que la tortue Vingegaard échafaudait un plan diabolique. Le temps jamais. Vous y croyez-vous?
Le bluff de Vingegaard dans cette côte, on a envie d'y croire, mais...